Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé. Ici, Kelly Méran. Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leurs projets de vie. Et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément.
Voici comment l'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Eh ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose ? What's your cause ? What's your belief ?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bolche !
Réfléchissez.
Dix.
La vie a-t-elle un sens ?
Qui suis-je ?
Il est complètement fou ce mec !
Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Alice Zaguri. Alice est CEO et cofondatrice de The Family. Pour ceux qui ne connaissent pas encore The Family, c'est une société privée d'investissement. De manière pragmatique et un peu chiante, ce sont des actionnaires minoritaires stratégiques de long terme dans les startups. Mais avant d'être ça, c'est surtout une famille d'entrepreneurs. Avec toutes les facettes qu'on peut imaginer d'une famille en termes de culture d'entreprise. On va y venir dans quelques instants. Concrètement, ils mettent à disposition des entrepreneurs et entrepreneuses un environnement favorable au succès, avec des connaissances, des outils et du capital. Depuis 2013, The Family, surnommée TF dans le milieu, a accompagné plus de 700 startups. Pour en citer quelques-unes, Algolia, Itch, Trainline, Agricool ou encore Payfit. En 2017, la valorisation globale des startups accompagnées par The Family atteint 1 milliard d'euros. On ne s'attend pas à voir une déco kitsch avec paillettes et palmiers en plein cœur du marais ou des soirées festives prises autant au sérieux quand on parle d'une société d'investissement. Et pourtant, cette touche artistique et très humaine, ainsi que la vision derrière cette entreprise, c'est Alice qui la porte. Leader dans l'âme, présence puissante, intuitive, sérielle entrepreneuse, émotionnelle, créative et un peu psy sur les bords. Elle a 1000 projets qui l'animent, des équipes hyper engagées et autonomes. Pour elle, l'entrepreneuriat ne dépend pas d'un genre ou d'une classe sociale, il peut venir de n'importe où. Elle accompagne chacun de ses entrepreneurs à se poser les bonnes questions, à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font et les aide à se propulser près des plus grands. Je vous laisse découvrir le personnage.
T'es prête ?
Ouais.
Alice, bienvenue sur le podcast Insensé. Comment ça va aujourd'hui ?
Super, ça va très bien.
Je vais commencer, avant de commencer, j'ai une petite confidence à te faire.
Vas-y.
J'ai eu la sensation que certaines fois, quand je t'ai vue, quand on s'est croisés pour parler de choses et d'autres, j'avais un genre de petit écart entre ce que je voulais dire et ce que je disais. Genre un peu mal à l'aise, un peu impressionnée. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive souvent ?
Alors, c'est quelque chose, malheureusement, qui m'arrive de plus en plus. Et en fait, moi, ça me pose un problème, mais bon, il faut que je m'adapte. Parce que dans mon métier, c'est justement quand les gens sont absolument naturels que j'arrive à trouver ma place et à pouvoir servir et apporter de la valeur, tu vois. Dès que je sens qu'il y a de la distance ou qu'il y a de la gêne ou qu'il y a une crispation, bon, bah, ça, c'est de la friction et c'est du travail en plus pour essayer d'être dans un, tu vois, dans une conversation un niveau d'authenticité nécessaire pour avancer ensemble, construire des choses, faire avancer ta boîte, enfin tu vois, voir à qui j'ai affaire, quoi.
C'est comme ça.
Du coup, il faut que j'en fasse encore plus du côté des contracts, relax. C'est pour ça que je peux avoir tendance même à surjouer le côté funny, on est à l'aise, employer du vocabulaire parfois, tu vois, peut-être familier pour décrisper parce que dès que t'as un peu fait des trucs, je pense surtout en France, dès que t'as un peu d'articles, de presse, etc., on s'imagine, je sais pas, on met cette distance, quoi, avec l'autre.
C'est intéressant. Bon, en tout cas, si je voulais en parler, c'était aussi pour dédramatiser le truc.
Ouais, bah merci de me le dire. Et qu'est-ce que je pourrais faire, tu penses, pour travailler là-dessus ?
C'est une bonne question. Ce que tu me dis en le fait de surjouer, je sais même pas si c'est la bonne idée, parce que en réalité, ça te rend tellement à l'aise dans tes baskets que presque ça met encore plus la distance sur le fait que la personne en face de toi semble pas hyper ancrée ou alignée. Et c'est bizarre parce que moi, ça me ressemble pas des masses. Donc, voilà,
imagine pour les gens qui, de base, sont plutôt introvertis.
Bon, on demandera aux auditeurs s'ils ont des idées.
Ouais, et tu sais que le pire, c'est qu'en fait, moi, je me considère comme étant introverti.
Ah ouais.
Ouais. Bon, ça.
Mais c'est peut-être ça qui appelle ça chez l'autre. Hein.
Ouais, peut-être.
Bon, alors.
Miroir. Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est peut-être le truc miroir, ouais, effectivement. Alice, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ?
Ok. Alors, mon parcours, j'ai grandi dans une famille qui était pas vraiment entrepreneuriale du tout, même pas du tout, en banlieue, dans le 94, en face du bois de Vincennes, vers Saint-Maurice. J'ai un grand frère et une petite sœur, J'ai eu un parcours scolaire à peu près classique. Après le bac, je me suis un peu par hasard retrouvée dans une classe prépa. Mais vraiment même, c'est pas un peu, c'est carrément par hasard. Parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais pas assez bonne en maths pour faire médecine comme mon papa qui était super psychiatre. J'étais pas à l'aise avec le droit pour faire comme mon frère et ma mère, aller dans la justice. Et donc, je me suis retrouvée au salon de l'étudiant, complètement subjuguée par un stand qui présentait une école post-bac, une école de commerce post-bac, en disant que c'était extraordinaire. Je me suis inscrite dans cette école post-bac en me disant que ça allait être génial, ça m'ouvrirait à tout. Et en fait, juste pour remercier mon prof du lycée, je suis passée au lycée. On était en septembre de la rentrée, donc je vais rentrer dans cette nouvelle école post-bac, et je passe voir mon prof pour lui dire merci de m'avoir aidé pour le bac, et il me dit où est-ce que tu vas. Je lui explique que je vais dans cette école, et il me dit jamais de la vie, tu vas pas là-dedans, ici il y a une classe prépa, tu vas faire la classe prépa. Ouais, et donc voilà, je me suis retrouvée en classe prépa.
Donc là, tu étais censée aller de l'autre côté.
Voilà,
c'est quoi l'école?
L'école, ça s'appelait l'ISG.
Ok.
Bon, je ne sais pas s'il faut en parler, parce que je ne connais pas trop. Mais en tout cas, le prof m'avait dit, je suis membre du jury, on surnomme ça l'Institut supérieur des galas. C'est la teuf tout le temps, quoi. Donc, Alice, va travailler. Donc, je me retrouve en classe prépa. Et ça a été deux années intenses que j'ai adorées. Voilà. Moi, j'ai adoré la classe prépa. Après, j'ai fait grande école de commerce. Donc, je me suis retrouvée à l'EM Lyon. Et puis là, à l'EM Lyon, je trouve que d'un point de vue intellectuel, tu redescends. Tu vois, quand t'es en classe prépa, t'as cette sensation de pouvoir parler de tous les sujets, de surfer d'une matière à une autre, d'être en phase avec ton temps, quoi. Tu peux rebondir sur l'actualité. Et j'aimais cette sensation-là. Arrivée en école de commerce, je sais pas, j'ai décroché là. J'ai décroché parce que c'était une autre énergie. On va trouver un métier et on va faire la teuf, quoi. Enfin, c'est la sensation que j'en avais. Par contre, j'ai rencontré des gens super qui sont restés des amis. Ce qui était bien, c'est que ça m'a ouvert à l'étranger, à l'international, à 21, même pas 20 ans, je crois qu'il te pousse à aller faire un stage à l'étranger. Donc je suis partie, j'ai étudié en Inde. Enfin, ça, c'était incroyable, quoi. L'opportunité était folle.
C'était où, en Inde ?
J'étais à Indore, à IIM Indore, à Indian Institute of Management. Moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup voyagé en Inde. Voilà. Et puis après, je voulais pas être comme... je ne me retrouvais pas dans les trois voies principales qui étaient marketing chez L'Oréal. J'avais quand même candidaté pour être stagiaire chez L'Oréal, ils ne m'avaient pas retenu. Je ne me voyais pas non plus faire de l'audit ou du conseil, je ne me voyais pas en finance. Je me souviens d'avoir une crise existentielle, d'appeler une copine en pleurant, lui dire « mais je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie ». Voilà. En plus, j'avais été menacée de redoublement. Il faut le faire quand même, hein, en école de commerce. Il faut le faire. J'étais une des rares de ma promo à avoir été menacée de redoublement parce que je n'étais pas passionnée. Donc, je ne prenais pas au sérieux les cours. Donc, voilà, J'ai du mal à trouver ma place. Et puis, en fait, ce que je savais, c'est que je voulais des responsabilités. Je voulais que ce soit un environnement créatif et je voulais que ce soit une petite structure, je pense aussi. J'ai fait un stage chez Publicis dans une agence de design qui s'appelait Carré Noir. J'ai trouvé ça super cool, la création d'identité. Puis j'avais une boss qui était top, qui s'appelait Véronique, qui était hyper sympa. J'ai toujours eu des nana boss très cool. Okay. Après, je suis partie dans une agence de design, un collectif d'artistes, une galerie d'art chez Emmanuel Perrotin. Mm-hmm. C'était très intéressant. Et puis, un peu par hasard, toujours parce qu'une femme, toujours une femme au-dessus de moi, c'est une femme que j'admirais beaucoup, qui était dans cette agence qui connectait les artistes avec des marques. Il y avait une fille que j'admirais beaucoup, qui gérait le pôle web de cette espèce de collectif, et qui partait. Et moi, je m'étais fait virer. C'était mon premier job, je me suis fait virer. Et donc, je l'ai suivie, elle, parce qu'elle partait, et elle me dit, Alice, il y a un poste de chef de projet dans une asso, tu vas adorer, c'est vraiment ton délire. Ça connecte les artistes. En fait, la mission, c'est de connecter les artistes avec les ingénieurs. Postule. Et donc, j'ai postulé. Donc cette fille, c'est Stéphanie Becker. Elle a monté une boîte qui s'appelle Noda, qu'elle a revendue. Mmh. Ça a été quelqu'un de tu vois, qui m'a inspirée, qui était important pour moi. Et bref, je l'ai suivie. C'est comme ça que je suis tombée dans le monde des ingénieurs, en fait. Et là, j'ai découvert ceux qui codaient, qui programmaient. C'était Silicon Sentier. C'était à la cantine. C'était en 2010, je crois. Et moi, j'avais cette mission de créer un incubateur au 104. Tu vois le lieu d'art,
ouais,
dans le
19e. Ouais, tout à fait.
Voilà, entre des artistes et des ingénieurs. Et en fait, comme je prenais à cœur mon travail, comme j'étais à fond...
Pardon, les artistes et les ingénieurs, quel style de projet est-ce qu'ils avaient
Tu sais, tout ce qui est œuvre d'art interactive.
D'accord.
En gros, l'idée, c'était faciliter les conditions de la sérendipité.
Petite aparté pour parler de sérendipité. J'adore ce terme et le concept qu'il y a derrière. Définition. Au sens original, la sérendipité, c'est la conjonction du hasard heureux qui permet au chercheur de faire une découverte inattendue d'importance ou d'intérêt supérieur à l'objet de sa recherche initiale. Et c'est aussi l'aptitude de ce même chercheur à saisir et à exploiter cette chance. La sérendipité, c'est un peu donc la chance, l'audace, la coïncidence, le signe du destin qui rencontre une curiosité, une attitude positive, une question. Et pour créer de telles opportunités, il faut aiguiser son œil pour savoir saisir la chance qui se présente. Et ça, chers auditeurs, c'est ce que je vous souhaite. On y retourne.
Ça m'a plu. Du coup, j'ai regardé un peu les modèles qui existaient dans le monde d'accompagnement de l'innovation. Du coup, tu regardes le MIT Media Lab, ce qu'ils font. J'ai commencé à regarder en Europe. Et t'as tous les types de modèles. T'as les hacker spaces, donc c'est des hackers qui se retrouvent et qui bidouillent des trucs pour kiffer. Alors, il n'y a pas de volonté de projet artistique au sens, tu vois, il n'y a pas d'œuvre d'art, mais il y a une performance et puis il y a presque quelque chose d'artistique quand même parce qu'ils se regroupent pour le plaisir de créer. Et puis, donc, des hacker spaces un peu comme ça qui sont organiques, quoi, qui ne sont pas. Il n'y a pas d'institution. Il y a aussi des laboratoires créés par des grands groupes où on va expérimenter des projets trans, comment ils appellent ça, où t'as plusieurs disciplines transdisciplinaires, pluridisciplinaires. Et où il n'en sort jamais vraiment grand-chose de concret, mais...
Les gens ont exploré.
Voilà. Et donc, je voyage en Europe et je vais un peu à la rencontre de ces différents endroits.
Génial.
Ouais. Et j'avais convaincu ma boss de me laisser faire ça. Ça s'appelait WhyGo. C'était un blog que j'avais monté. Ça s'appelait Why Generation Around the World. Et j'interviewais comme ça pendant deux mois, un mois et demi.
Ouais. Il existe encore ce blog ?
Non, je crois pas. Je crois pas, mais je m'étais bien éclatée. Et moi, ça m'avait nourrie. Et j'avais compris l'émulation qu'on pouvait trouver au sein d'une communauté, d'un lieu, d'une mission commune, de valeurs communes. Et je me souviens d'avoir visité le premier accélérateur européen. Techstars ouvrait à Copenhague le premier accélérateur. Et le mec qui gérait ça m'avait ouvert les bras. Il était hyper sympa, quoi. Il m'avait laissé vivre la première semaine d'excitation avec tous ces jeunes programmeurs qui se retrouvaient pour passer de l'idée au projet, au prototype.
Premier accélérateur européen, ouais. C'était quand ?
Je crois que c'était 2011, hein, quelque chose comme ça.
Waouh, ça a poussé depuis, hein.
Alors, 2005, c'était Y Combinator, à peu près, je crois qu'ils sont nés en 2005.
D'accord.
Ça a mis du temps quand même à traverser l'Atlantique. Wow. Ça m'avait inspiré. Et en fait, tu vois, on surfe des communautés donc techniques aux communautés artistiques. Enfin, je les ai quittées finalement, les communautés plus artistiques, petit à petit. Mmh. Et c'est comme ça que je suis arrivée à ensuite créer donc pour cet assaut. Dans laquelle je travaillais, le premier accélérateur européen, français, qui s'appelait le Camping. Et c'est comme ça ensuite que j'ai rencontré mes futurs associés et que j'ai décidé de monter The Family.
Boum.
Voilà.
Et ton job aujourd'hui ?
C'est long.
Oh, non, non, mais
tu
c'est
m'as
pas
demandé
grave.
D'où je viens, je t'ai raconté. Oh là là.
On a un bon
tu
bout d'histoire.
Astrologique
aussi. C'est quoi ton signe astrologique ?
On note tous les détails. Non, on s'en fout. T'y crois ?
Oui.
C'est vrai. Et ben, je suis scorpion, ascendant scorpion.
Ah ouais, mais j'y crois, mais je connais pas suffisamment pour te faire l'analyse. Bah,
c'est
là.
Scorpion, ascendant scorpion, ça veut dire scorpion au carré. C'est okay. Totalement scorpion.
Ok. Mm. 100%. On ouais. ira chercher un peu plus tard alors. Ton job aujourd'hui, concrètement, il consiste en quoi ?
Alors déjà, donc, la mission de The Family, c'est d'accompagner des créateurs, des entrepreneurs et de les aider à nourrir leur ambition, avancer, créer des boîtes qui soient des champions, des championnes européennes. Pour ça, on offre énormément d'éducation, d'outils, d'accès au capital. On est présent à Londres, Paris, Berlin et... tu nous as présenté déjà, voilà, on accompagne des boîtes au quotidien, mon métier c'est d'accompagner des boîtes. Maintenant la manière dont on est organisé au sein de The Family, je suis un des trois cofondateurs, donc tu as Oussama qui est le produit qui est plus visible, je dirais, le super orateur, et celui qui aide à penser différemment, et puis tu as Nicolas qui est celui qui écrit, et qui rend intelligible la transformation, ce qui est en train de se passer, la révolution numérique, auprès des gens qui comptent aussi dans notre écosystème et qui peuvent être les décideurs publics, les PDG de grands groupes, etc. Et moi, je suis sur le terrain. Moi, je fais en sorte, tu vois, je suis présidente, alors, je sais pas, CEO, généralement, on leur attribue la charge de la vision, de la culture. Donc moi, je m'occupe des gens, je m'occupe de mon équipe et de faire en sorte que chacun soit à sa place, soit heureux d'y être, soit efficace, soit en phase avec ses objectifs. Donc je suis un peu en support de mon équipe pour qu'elle fasse bien son travail. Je suis celle qui impulse tout ce qui est de l'ordre de la communication, tu vois, l'incarnation de The Family, le produit, quoi, hein, que ce soit les vidéos que tu vois en ligne sur YouTube, les réseaux sociaux, tout le contenu, le site internet, l'identité, voilà.
Ok. Et... t'as encore les mains dans le cambouis, donc t'es pas...
J'ai beaucoup les mains dans le cambouis. Okay. Oh ouais, carrément même. Oh ouais. Je délègue, hein, attention, mm-hmm. et surtout je fais faire aux autres, je les aide à faire du mieux possible ce à quoi ils sont meilleurs que moi, d'accord ? Mais j'ai besoin toujours d'être dans la matière. Mm. C'est sûr, ouais, c'est mon truc.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étapes que tu as parcourues qui ont fait que tu t'es un peu fait toute seule, ou en tout cas tu as suivi un peu ton intuition à travers les différents projets, même avant The Family. Tu as déjà eu un peu le sentiment de... comment dire, de défricher, un peu le sentiment de l'imposteur, de voir défricher quelque chose, mais tu sais pas très bien si t'es au bon endroit, si tu le fais bien, si t'es censé être là, si t'es légitime à être là.
Alors, je dirais pas que je me suis faite toute seule. Hein. Franchement, il y a toujours eu des gens
qui ont été comme des espèces de bienfaiteurs, de guides, tu vois. Bah, il y a cette Stéphanie, avant il y avait Marie Vorgan, qui était au Silicon Sentier, avant il y a eu cette Véronique. Il y a toujours eu, alors c'est marrant, c'est des femmes souvent. Oussama, ça a été vraiment une rencontre qui m'a bouleversée, parce que il m'a donné envie de monter ma première aventure entrepreneuriale, en fait. The Family, c'était ma première boîte, j'avais pas monté de boîte avant. Donc c'est des rencontres en vrai. Tu vois, il n'y a pas de... après, c'est sûr que les gens qui me connaissent bien te diront, c'est une meuf qui doute énormément. Et qui, pas au sens où j'ai pas confiance dans ce que je peux faire, mais au sens où je remets toujours tout en question. Et au sens où, bien sûr, je suis traversée par des moments où je suis complètement paumée, je sais plus où est le sens de la vie. Tu vois, vraiment. En tout cas, je dis pas que c'est agréable de traverser ces moments où t'es dans une espèce de vide abyssal, quoi, c'est angoissant. Mais si tu les traverses pas, tu ne créeras rien d'intéressant, tu vois. Et surtout, encore une fois, tu n'arriveras pas à toucher un point d'authenticité vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire, tu vas te mettre des œillères et tu vas pas aller regarder dans tes profondeurs, quoi. Moi, je me suis toujours servi de ce qui était mes blessures comme d'une ressource, en fait, d'une ressource. C'est-à-dire, je les fuis pas, mais j'y retourne souvent pour aller puiser de l'énergie et de la force, comme une envie de créer, je sais pas trop comment finir cette phrase, mais t'as compris l'idée, quoi.
Les blessures comme ressource.
Ouais.
Et c'est elle est revenue. Quand tu as justement ces grosses périodes de doute, ces grosses périodes de où est le sens et où est-ce que je suis, comment est-ce que tu te raccroches au wagon?
Alors, ça dépend. Ça dépend.
Il n'y a pas une méthode.
Alors, faudrait que je te prenne un cas, en fait. Faudrait que je te prenne un cas concret, parce que ça arrive tout le temps, mais tout ce que tu fais qui ne sont pas des choses que tu as déjà faites, d'accord, qui ne sont pas des choses routinières, qui sont des choses que tu dois créer quelque chose, tu dois impulser quelque chose de nouveau. Par exemple, un des derniers projets qui est sorti là, dont je me suis occupée, qui me tient vachement à cœur, c'est Gold Up. Gold Up, c'est un bootcamp pour les femmes entrepreneurs en 5 semaines. Pour qu'elles apprennent à lancer leur site, leur activité en ligne. Tout, hein, un projet, c'est tout son ensemble. Hein, c'est pas juste le pitch, quoi. C'est le nombre. Est-ce que c'est un bootcamp? Ça dure. Il y a une date de début, il y a une date de fin. Combien ça coûte? Quelle est l'énergie qu'il y a dedans? Quelles sont les valeurs? Qui va venir raconter des choses et enseigner finalement à ces filles comment apprendre à entreprendre? Qui sont les filles qu'on va sélectionner, enfin, tout ça, c'est un projet. En fait, ça, c'est né à un moment donné, dans une période où vraiment, je n'en peux plus. J'ai l'impression que je me sens mal parce qu'il n'y a pas de femmes dans les startups de family et que ça commence à être beaucoup trop lourd, quoi. C'est pas qu'une histoire de statistiques, c'est vraiment au quotidien. C'est pas marrant. C'est pas marrant d'être entouré de... Alors, c'est pas des clones, hein, parce que vraiment, pour le coup, on a travaillé à avoir une vraie diversité, mais néanmoins, c'est que des mecs, quoi. C'est que des mecs. Il y a un moment où on part en week-end, parce qu'on fait souvent des week-ends avec les entrepreneurs, et où on se retrouve, où les seules nanas présentes sont les filles de mon équipe, à moi. C'est triste, quoi. Et je me dis, mais attends, t'es en train d'accélérer, d'encourager, de nourrir un mouvement où t'as pas ta place, concrètement, tu vois. Et donc, je me dis, il y a un bug. Et donc, voilà. Et en fait, À ce moment-là, j'ai accepté de ne pas savoir, de me sentir un peu paumée. Je suis partie interviewer des femmes ailleurs qu'en France, qui étaient des super entrepreneuses, pour me nourrir. Donc de prendre ce temps de, tu vois, de défrichage. Et où tu sais pas ce qui va en ressortir. Et donc je parle un peu à tout le monde, je lis des bouquins. Puis je sais pas, il y a tellement de choses, tu sais pas par où commencer en fait, par quel bout le prendre. Et puis en fait, t'acceptes de ne pas tout pouvoir ingurgiter, c'est une chose. Et puis surtout, tu connectes avec ce qui te parle. Un jour, je rencontre une sociologue, journaliste anglaise. Avec qui j'ai cette conversation, et je lui dis je sais pas comment changer les choses à mon petit niveau pour qu'il y ait plus de femmes qui entreprennent. Et elle me dit, mais Alice, j'ai regardé ton site The Family, vous êtes quand même vachement sur l'ambition, tu sais, moi j'ai des études qui peuvent te montrer que les femmes s'auto tu vois, s'auto-censurent, elles se permettent pas de dire qu'elles sont ambitieuses, tu vois, quelque part l'ambition c'est pas pour elles, donc plus tu mettras en avant l'ambition, moins t'auras de nanas. Ça me pose un problème philosophiquement, mais si c'est la réalité aujourd'hui, si c'est l'effet que ce mot produit sur les femmes, je veux bien
Si dans leur trip au fond il y a de l'ambition, mais c'est juste le mot qu'elles utilisent pas en fait.
Voilà,
c'est ça.
Et donc, je me dis, bon, il va falloir que je sois plus maline pour que je crée comme un espèce d'escalier avec des marches qui n'affichent pas de prime abord cette ambition qui peut être glaçante et rejetante, mais les amener à tenter le coup de l'aventure entrepreneuriale, déjà essayer d'être profitable, hein, sans parler de croissance exponentielle, déjà être profitable. Et ensuite, voir celles qui prennent goût et qui se laissent la possibilité de voir grandir cette fameuse ambition. Et donc, c'est vraiment de ce moment-là que va naître l'envie de créer le projet Gold Up. Et en fait, on a fait la même chose là récemment. Bah, t'es venue à Madrinas. Donc, pour les femmes qui veulent apprendre à investir. En fait, il y a toujours ce moment quand tu crées un nouveau projet, un nouveau mouvement, que tu veux, que tu as une intuition de quelque chose et que tu le testes. Il y a toujours un moment où tu es dans un désert, quoi, une zone où il n'y a rien et où tu ne sais pas si tu as raison ou tort. Et où faut être dans l'acceptation que tu ne sais pas et dans le doute. Et puis là, je te parlais de deux projets que j'aime bien et qui fonctionnent bien, mais il y a 80% des projets qu'on lance, dont je te parlerai même pas parce qu'ils sont morts déjà, quoi.
Ils sont morts-nés.
Ouais. Et en fait, j'essaie de faire en sorte dans notre équipe qu'on garde la fraîcheur des premiers jours, tu vois, pour toujours être des lanceurs d'initiatives et de mouvements et pas se laisser, tu vois, abattre parce qu'on a eu plus d'échecs que de victoires. Parce que là, Ces deux projets sont des victoires, mais il y a eu plein d'échecs.
Il y a deux autres projets aussi qui sont un peu destinés aux femmes. Donc, tu as parlé de Gold Up et de Las Madrinas. Mais il y a aussi Sistership, qui est un genre de communauté, des conférences, du contenu par et pour des femmes. Et il y a aussi Ada Tech School, qui est une école de code par et pour des femmes. Beaucoup d'initiatives dans ce sens. J'imagine que c'est pour rééquilibrer. Il y a une citation, enfin une chose que tu as dit sur une interview sur Madame Figaro, que je trouve assez intéressante, je voulais aller creuser avec toi. Les femmes doivent parcourir une distance invisible pour correspondre au code des secteurs masculins, comme l'entrepreneuriat. C'est quoi cette distance invisible ?
Alors, c'est l'histoire de la distance invisible, en fait, je l'ai empruntée à Michelle Obama. Parce que dans son bouquin Becoming, elle te le dit, en tant que minorité, alors femme et black, dans une université, je ne sais plus quelle grande université américaine, Stanford ou Harvard, je ne sais plus, elle rentre et elle. Ou Princeton. Et en fait, elle qui a toujours essayé de se fondre dans la masse, se retrouve finalement à traîner, à zoner avec les gens qui lui ressemblent, quoi, qui sont que des gens de couleur. Et je crois qu'elle fait partie du club, un certain club des gens de couleur. Et elle dit, en fait, c'était reposant.
c'était reposant pour moi de me retrouver avec mes pères. Pourquoi ? Parce que la majorité ne se rend pas compte parce qu'elle est dans sa majorité et que du coup, elle ne peut pas se mettre à ma place, quoi. Elle ne vit pas mon expérience. Qu'à chaque fois que je vais m'adresser à un mec blanc d'une autre catégorie sociale, je m'adapte. Je m'adapte à son langage, à sa façon de concevoir le monde, à ses sujets de conversation, etc. Et en fait, parcourir cette distance me demande à moi plus d'énergie puisque je viens d'ailleurs. Je viens d'un autre endroit, je n'ai pas les mêmes codes. Et lui, ces codes-là, c'est les codes avec lesquels il a grandi et c'est les codes dont il a besoin à 100% de sa journée. D'accord ? Donc moi, je fais un effort que lui ne fait pas. Et à chaque fois que je m'adresse à quelqu'un, je fais cet effort. Et en fait, ça, tu peux transposer, c'est à peu près la même chose pour une femme dans le milieu tech. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va avoir une conversation avec quelqu'un, ben en fait, elle parcourt une distance. Voilà, une fois que ça s'est dit, moi je suis pas pour la victimisation, je suis pas pour tu vois, se lamenter et se dire « oh là là, c'est plus dur pour nous ». Mais par contre, faut simplement en avoir conscience. Une fois que tu en as conscience, tu prends soin du coup de cette autre partie de toi qui souffre parce qu'elle doit toujours
se battre, se défendre, quoi.
S'adapter. Et c'est pour ça que les clubs de femmes cartonnent. C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se répare. C'est tout d'un coup, on peut aussi ne plus avoir à s'adapter et être pleinement autre chose que la norme. Après, tu vois, moi, c'est un mouvement. Enfin, c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup de bien, Goldup. Parce qu'en fait, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé, mais et ça m'a aidé d'être un peu aveugle pendant un moment. C'est-à-dire, ça m'a aidé de m'adapter et de pas voir le mal à ça, de s'adapter tout le temps. Et c'est cool. C'est cool. Et je pense que t'as pas d'autre choix. De toute façon, dans la vie, on est tous par essence uniques. Et donc, tu n'as pas la sensation d'appartenir à une majorité. Enfin, tu vois, qui a la sensation d'appartenir à une majorité ? Tu as toujours l'impression d'être un peu en dehors. Beaucoup, on partage tous ça. Il y a des moments où on sent en dehors. Donc, faut pas s'arrêter à ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut en avoir conscience. Et c'est vrai que quand c'est caricatural au point que ça l'est, tu vois, dans l'entrepreneuriat... et dans le digital, ben voilà, faut c'est bien de s'entourer de gens qui partagent les mêmes sensations que toi, quoi. Ça répond à ta question
complètement.
Ouais,
complètement. Une des missions de The Family, c'est de combattre la toxicité qu'il y a en Europe dans l'écosystème entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous définir ? Qu'est-ce que c'est que cette toxicité ?
Alors, pour la faire simple, quand j'ai commencé à créer le premier accélérateur, hein, de manière un peu naïve, j'ai copié-collé un modèle américain. J'ai copié-collé un modèle qui venait de la Silicon Valley, qui s'appelait Y Combinator. J'ai regardé exactement comment le mec s'y prenait. Il avait... c'est un peu une classe prépa. Hein, et en gros, il prend des individus qui sont excellents, des fondateurs de boîtes excellents, et il leur donne pendant un temps limité, donc je ne sais plus si c'était 3 mois ou 6 mois, énormément d'accompagnement par des entrepreneurs aguerris qu'il appelle mentors. Donc c'est des gens qui sont dans une attitude de give back, de pay it forward, qui vont accompagner et qui vont donner de leur expérience, de leur temps, de leur réseau à ces jeunes entrepreneurs pour que ces jeunes entrepreneurs avancent. Et après un programme très intense de plusieurs mois, ils les présentent devant un partenaire d'investisseurs et là, boum, par magie, tu as Airbnb, Dropbox, and so on. Donc, je regarde ce modèle, je me dis « waouh ». Et si on faisait la même chose, on aurait les mêmes résultats. Donc, évidemment, non, parce que à chaque contexte, tu as des réponses différentes et que les États-Unis ne sont pas la France. Et en fait, les ingrédients qui font que la sauce prenne chez lui, c'est-à-dire le mentoring,
le fait qu'il y ait des mecs qui aient réussi et qui soient prêts à donner de leur temps, la capacité à prendre des risques et des investisseurs sur des projets qui sont encore balbutiants. Voilà, donc tu as toute une liste d'ingrédients comme ça que je ne retrouve pas en France. Et même pire, je vais apprendre en fait que non seulement on n'a pas les mentors qui ont cette expérience et cette envie de partager, hein, les mecs qui ont réussi chez nous souvent sont en haut d'une tour, moins accessibles. Et ceux qui sont prêts à le partager sont rares, leur expérience, et souvent leur expérience elle n'est pas aussi intéressante que celle des mecs que tu peux trouver dans les boîtes de la Silicon Valley. Et puis les investisseurs, pour le coup, alors là, c'est une autre catégorie, quoi. Ils sont pas encore au fait des nouveaux business models. Donc,
Et ils sont pas paramétrés pareil.
Non, voilà, ouais. c'est pas pareil. Donc, je me dis comment je vais faire. Je fais des efforts monumentaux pour faire venir ces mecs de la Silicon Valley et parler à mes startups en leur vendant Paris, en leur disant que Paris c'est génial, qu'il faut absolument venir à Paris, qu'on a de la culture, on a du vin, du fromage, enfin venez, vous allez voir. Et puis en fait, Paris, une image qui est tellement forte que les Américains sont très contents d'avoir un prétexte pour venir à Paris. Donc on crée des liens avec cette communauté de super entrepreneurs de la Silicon Valley et en fait un peu de partout aussi en Europe, parce que c'est pas que là-bas. Et donc j'apprends en fait en confrontant les cultures, d'abord que particulièrement en France, on a un besoin d'éducation au niveau business, au niveau ambition et au niveau partage et soutien, entraide. Tu vois, ce qui fait qu'un écosystème va être puissant, c'est qu'il y a un vrai désir de hisser les autres vers le haut. Alors après, à quoi c'est dû? C'est pas ma question, tu vois. Je veux dire, et je suis pas non plus critique. Je sais aussi que, la culture française, et le pays dans lequel j'ai grandi, tu vois, j'y suis très heureuse. Mais je vois bien que au niveau de la vélocité, de l'intensité et de l'ambition qu'on peut avoir, la vélocité de l'information, la circulation d'information et l'intensité des échanges. On est loin, quoi. On est loin de ce qui fait qu'un écosystème avance ensemble, bien. Et donc, quand on parle de toxicité, on parle de toutes les barrières au fait que de créer un écosystème d'entraide fort, puissant, qui aide les nouveaux entrants, qui aide les jeunes entrepreneurs à décoller. C'est le manque d'ambition, c'est la peur de l'échec, c'est l'élitisme, c'est le paternalisme, voilà. Et en fait, c'est très vrai en France, mais avec des touches, je dirais, culturelles différentes. C'est vrai aussi en Angleterre, c'est vrai aussi en Allemagne, c'est vrai aussi en Italie, c'est vrai aussi en Espagne. Enfin, voilà, il y a plein d'endroits où c'est très vrai en fait.
Mais les curseurs vont être un petit peu placés différemment selon les pays en Europe.
Ouais.
Toujours rester sur l'écosystème startup, il y a beaucoup de critiques sur la Startup Nation, en disant on parle d'élitisme, on parle d'une bulle, on parle d'un mode de pensée qui correspond à une niche. On parle aussi d'une génération un peu bullshit. Toi, t'en penses quoi de ça?
Je t'avoue que je sais pas ce que c'est, tu vois, Startup Nation, je supporte pas tout ce qui est catégorisation, label, etc. Je me suis jamais trouvée à l'aise à appartenir à un groupe. J'ai toujours aimé être libre. Donc, je me sens pas appartenir à une Startup Nation. Startup Nation, c'est le nom d'un bouquin qui parle d'Israël et qui raconte l'essor d'un pays grâce à son innovation technologique. Et ça, je comprends très bien dans ce cas de figure qu'on parle de Startup Nation. Pour parler de vaguement, tu vois, d'un mouvement en France et en Europe, parce que j'imagine que tu le géolocalises plutôt par là, je n'ai pas la sensation qu'il y ait une seule et même communauté du tout.
Et je pense que c'est dangereux de catégoriser parce que c'est toujours une manière d'isoler et donc d'accuser, tu vois. Moi, je me suis toujours battue pour que ce que j'ai vu, en fait, dans l'opportunité de ces nouvelles technologies, c'était l'accès à la création de business qui était ouvert. Ce que j'ai vu, c'est qu'on n'avait plus besoin d'être un fils d'entrepreneur pour entreprendre. Ce que j'ai vu, c'est qu'on n'avait plus besoin non plus d'avoir la validation d'une grande école pour avoir accès au savoir. Donc, en fait, j'ai vu une ouverture d'accès et plus de liberté signifie plus d'opportunités, mais aussi tout. Enfin, tu vois, c'est vice versa, quoi. Il y a l'ombre et la lumière, donc ça signifie aussi plus de dérives, forcément, tu vois, et plus de possibilités de tenir des discours parfois graves. Enfin, tu vois, donc en fait. Pour moi, tout ça n'appartient pas à une même catégorie, parce que sinon, ça voudrait dire il y a ceux qui sont pour l'innovation et ceux qui sont contre. Enfin, ça marche pas. Ce serait trop facile, en fait, de séparer comme ça.
Je comprends. Merci pour cette réponse. Ça m'a éclairée. Pour rester sur une question, quelque chose que j'ai trouvé sur une de tes interviews que je trouvais intéressante. Tu dis que ton regard sur le capitalisme a changé au cours de ton expérience à The Family, où ça fait 7 ans, ouais, à peu près. En quoi est-ce qu'il a changé ?
Moi, je viens d'un milieu clairement à gauche, des parents 68ards. Mon père, tu vois, il est arrivé du Maroc. Son père à lui, il vendait des frigidaires et c'est vraiment à l'école publique que son ambition est née et qu'il a décidé de devenir médecin, et ça lui a été rendu possible, tu vois, sans qu'il ait à débourser énormément d'argent. De l'autre côté, ma maman, elle a suivi un parcours, tu vois, où elle vient d'un milieu qui n'était pas non plus hyper hyper privilégié, quoi. Elle avait un papa qui avait un nom à particules, mais qui s'est pas vraiment occupé d'elle. Enfin, tu vois, il est parti quand elle avait 3 ans. Et elle l'a pas beaucoup vu. Et elle, pour l'impressionner, parce qu'il était juge, elle a décidé d'être juge. Donc, ouais, donc c'est des gens qui, tu vois, dans leur métier, ont vraiment décidé d'avoir des métiers qui ont du sens. Et ensuite, qui ont vraiment vécu une ascension sociale, presque par la volonté, quoi. Il y a quelque chose que de cet ordre-là. Donc ça, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi. Il n'y a pas une once de business, il n'y a pas une once d'entrepreneuriat. Et moi, ayant été à l'école, à aucun moment j'ai appris à aimer des figures entrepreneuriales. À part Henry Ford, je suis incapable de te citer un entrepreneur qui a marqué notre temps. Tu vois, et en économie, je connais Keynes et Smith, fin. Tu vois, donc j'ai pas nourri mon appétit, ni même je connaissais pas ce que c'était vraiment l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était le patron qui exploitait des gens avec un gros cigare dans la bouche et qui devait avoir surtout le moins d'empathie possible pour que les gens serve son intérêt propre à lui. Voilà. Donc ça, c'est l'image que j'ai du capitalisme. Et pourtant, je vais aller faire une école de commerce. Donc il y a un moment où, si tu veux, il y a un petit paradoxe. mais j'admire pas du tout l'entrepreneur, et je me dis jamais je vais devenir entrepreneur. Et je connais pas, en fait, les entrepreneurs. Pour moi, voilà. Et puis j'ai cette image un peu caricaturale, même clairement caricaturale, et du patron avec beaucoup de désamour. Mais je pense qu'il y a un truc français qu'on a un peu tous, quoi. On n'a pas de culture business, on n'a pas de culture financière. Donc on a tendance à éloigner tout ça et à le mettre dans le même panier de les grands méchants. Sauf qu'Internet arrive et te permet d'avoir des figures, des acteurs dans l'entrepreneuriat qui ne ressemblent pas à ma caricature du patron exploitant.
Avec son gros cigare.
Oui, voilà. Donc je vois des
des jeunes qui ont envie de résoudre un problème, qui demandent la permission à personne, qui bidouillent un truc le soir dans leur chambre de bonne, et qui le lendemain arrivent, qui font des tests, qui écoutent les résultats des utilisateurs et qui l'améliorent. Voilà. Et j'aime leur intensité, l'instantanéité aussi. Il y a un côté magique. Hein, le mec qui code, il a pas besoin de matière, si ce n'est de son cerveau, quoi, de matière grise. Mmh. Donc, quelque chose de magique. Et je vois aussi la candeur et je vois l'envie de résoudre simplement un problème. Après, est-ce que ça veut dire que tous les start-upers sont des gentils qui veulent résoudre des problèmes ? Non. Mais en tout cas, ça a ouvert la voie à d'autres que ceux qui étaient dans le business plus traditionnel, où il y avait encore une forme vraiment très très forte d'héritage qui était nécessaire pour pouvoir y accéder, et de un fonctionnement qui est très paternaliste, quoi, et pyramidal. Et là, on voit des nouveaux modèles apparaître. Donc en fait, mon regard va changer parce que je vais voir ces nouveaux acteurs arriver et qui ne ressemblent pas à ma caricature, et que ça, moi, ça m'a fait bugger. J'aime vivre ces moments-là. C'est-à-dire, j'aime sortir d'un préjugé que je ne savais même pas, parce qu'on n'est jamais conscient de ses préjugés, au fond. On ne s'en rend même pas compte. On pense que la vie est comme ça, et que ça, c'est la vérité, et que ça... Voilà ce qui est vrai, voilà ce qu'il faut.
Jusqu'à ce qu'il y ait le petit truc dans ton cerveau qui fasse...
Jusqu'à ce que... Mais attends, ça correspond pas à ma représentation du monde, ça, dis donc. Ouais. Ouais, et ça, c'est des moments qui sont hyper agréables à vivre, même si tu dois te distancier par rapport à quelque chose que tu as toujours pensé, et tu dis, ah tiens, mais en fait, j'avais tort, quelque part. Mmh. Alors, pas totalement, complètement, mais tu vois... Et donc, ça m'a... C'est plaisant à vivre, quoi. Et je trouve que... C'est important de le vivre, en fait, de sortir de ses préjugés.
Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ça fait sens pour toi ?
Ouais, carrément. Ce qui fait sens pour moi, c'est d'avoir la sensation d'aider, d'accompagner, de juste de tirer la languette. Tu vois, parce qu'en fait, c'est prêt à démouler, tu vois. Le gâteau est prêt à être démoulé, mais il demande juste un petit coup de pouce. Et souvent, c'est ça, en fait. Hein. The Family, c'est vraiment des optimistes qui essaient de mettre beaucoup de pragmatisme à ton service. Voilà. Alors là, c'est pas joliment dit, mais c'est comment se rendre utile et comment nourrir ton envie de créer, quoi. Quels qu'ils soient, les créateurs, hein. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont envie de monter des boîtes avec des ambitions de devenir des champions mondiaux, et puis tu en as qui ont envie de monter une boîte de service. Et en fait, on crée des connexions, même on peut accompagner ces boîtes. Ce qui me plaît, c'est d'aider les gens à trouver leur place, quoi, dans cette recherche de création de boîtes. De trouver des gens qui vont les aider, voilà.
Je vais arriver sur la culture de The Family, ouais. qui a des valeurs très fortes, parfois clivantes. Est-ce que tu arriverais à résumer en une ou deux phrases en quoi consiste la culture de The Family ?
Ouais, même en trois mots, der, care, share.
Ok.
Donc en gros, l'idée, c'est que... c'est vraiment notre motto, c'est ce qui est écrit à l'entrée de The Family, et c'est aussi vrai pour les employés que pour les boîtes qu'on accompagne. Dare, c'est ose, c'est le courage, c'est l'ambition. Care, c'est le soin, c'est aimer, c'est écoute, c'est l'empathie, c'est la bienveillance. Et share, c'est le partage. L'éducation. Et en fait, quand tu regardes, nous, même si ça fait 7 ans qu'on accompagne des boîtes, je suis incapable aujourd'hui de sortir des critères clairs de comment on sélectionne les boîtes. Ce que je regarde, c'est est-ce qu'il y a un potentiel de courage ? Est-ce qu'ils ont envie, tu vois, d'apprendre à d'être ambitieux ? Est-ce qu'ils sont dans l'écoute, le care, et est-ce qu'ils sont aussi paid forward ? Alors, je suis désolée, il y a tellement d'anglicisme là-dedans, mais paid forward, il n'y a pas de traduction, tu vois, française. C'est l'idée que tu donnes aux autres sans savoir comment ça va te revenir, parce que ça reviendra tôt ou tard, mais c'est tellement déjà un plaisir de donner. que tu fais-le juste pour le faire. Et en fait, c'est un peu comme la loi du karma, tu vois. C'est, tu donnes et sans attendre, quoi. C'est bon pour la communauté, et ça te reviendra tôt ou tard. Et il faut être dans cette aptitude-là. C'est essentiel pour créer une communauté qui se tire vers le haut et qui avance, quoi, qui progresse.
Et ce truc-là m'a pas mal retenu mon attention, parce que j'ai eu un peu ce truc naturel de le faire, ce pay it forward. Et quand je racontais des histoires de choses qui étaient liées à ça, on me disait, mais t'es un peu une bonne cruche quand même. Comment ça tu donnes ton temps? Comment ça tu donnes tes contacts? Comment ça t'es... Non, mais ça se facture. Et pour moi, c'est insensé. Enfin, non, c'est pas ça qui se facture, et c'est pas ça qui... Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été reproché, ou...
Il y a des fois, on me dit, The Family, c'est une asso, ou... Hier, je parlais avec un mec, il me disait, mais vous voulez faire de l'argent?
C'est une société privée d'investissement.
Non, mais alors, en fait, j'ai pas envie de te donner une règle absolue, mais moi, ma règle en tout cas, la mienne et celle que j'applique pour moi et celle qui me nourrit, qui me rend heureuse, c'est de donner autant que je peux, et tout le temps. Et c'est ça qui me rend heureuse, tu vois, c'est ça qui me nourrit.
T'en reçois au centuple, ouais, bien sûr.
Et voilà, exactement. Et ça a été une stratégie, ça a été la façon d'être aux autres de The Family. C'est ce que je demande à tous mes employés. C'est pas d'être pingre, quoi. Alors après, bien sûr, tu peux pas passer ton temps, sinon tu travaillerais pas, à être uniquement au service de qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'autre toute ma journée. Mais et à toi d'être organisé, à toi de savoir délivrer sur ton travail. Mais c'est important, en fait, dès que tu en as l'opportunité. Et en fait, nous, on crée ces opportunités en permanence. Tu vois, avec les événements qu'on fait tout le temps, il y a de la rencontre, il y a des centaines de personnes qui vont passer, il y a des échanges. Et en fait, on essaie de favoriser, et surtout, on essaie de ne pas se mettre en goulot d'étranglement comme si on était les seuls intermédiaires possibles. Tu vois, il y a une entrée très simple, enfin, il y a une intro, pardon, qu'on fait tout le temps aux événements de The Family, c'est... On présente The Family à tous les invités, et puis on leur dit, bon, bah maintenant prends 2 minutes pour parler à ton voisin de gauche et de droite, celui surtout avec lequel tu n'es pas venu, pour te présenter et te dire qu'est-ce que tu viens chercher, qu'est-ce que tu peux donner. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est tellement essentiel. Quand tu vas au théâtre, quand tu vas au cinéma, dire, c'est rare les moments où tu arrives à avoir une conversation avec ton voisin de droite ou de gauche. Et pourtant, vous êtes là, vous êtes réunis pour voir ensemble une œuvre. Donc vous avez certainement des choses en commun, en fait, ne serait-ce que cette œuvre, tu vois, et ce qui vous amène à être assis à côté l'un de l'autre. Pourquoi ne pas parler à son voisin? T'imagines, est-ce qu'on pourrait...
Tu parles à ton voisin au ciné?
Mais trop pas. Mais j'ai peur. Mais non, mais évidemment que non. Mais pourquoi? Parce que... Et donc c'est pour ça que, si tu veux, The Family, juste quand on fait nos événements, donne l'opportunité de pouvoir le faire. Et on attend, on est bête, on attend d'avoir une permission, mais ce sont les règles sociales, c'est normal. Ce sont les règles de politesse, je sais pas, d'interaction. Bon, mais ça me fait penser, après, là, on parle de ça, c'est... Il y a des règles qu'on subit, tu vois. Et c'est vrai que souvent, je pense que The Family marche aussi bien parce qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus individualiste aussi, et où il devient difficile de connecter avec les gens in real life. La dernière fois, je parlais avec des Réunionnais, et ils me disaient, oh, mais quel cauchemar, Paris, mais comment vous faites? On dirait des robots, mais vous êtes malade. Mais vous souriez jamais, vous regardez pas dans les yeux. Et tu sais, ils disaient ça avec une... Ouais, et c'est une spontanéité qui était... Enfin, voilà, je pouvais qu'acquiescer, en fait. C'est bizarre, ces règles de pas se regarder, de pas connecter, de pas se sourire.
Mais c'est drôle, parce que avec toute cette énergie et ces connexions que tu crées dans l'enceinte de The Family, donc sous un toit en particulier, t'as presque des automatismes qui se développent. Moi, je croyais que tu parlais à ton voisin au cinéma. Dans le doute, bah, parce qu'en fait, tu as des mécanismes qui se mettent en place qui n'émanent que de toi. qui ne dépendent plus d'un contexte. Enfin, je crois, j'ai une croyance
là-dessus. Mais t'as complètement raison. Non, mais t'as complètement raison. Mais moi, c'est avant The Family, j'étais comme ça.
D'accord.
Après The Family, peut-être qu'il faudrait que j'y travaille, mais avant The Family, j'étais comme ça. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans tente de faire quelque chose qui n'est pas attendu. Et pas pour faire quelque chose de spectaculaire, hein, mais juste pour quelque chose qui est toujours autour de la conversation et de la connexion et du lien. Maintenant, je suis un peu moins parce que je sais pas, peut-être que je suis tombée dans la routine parisienne locale aussi. Peut-être que j'apprécie d'autant plus la solitude parce que c'est quand même hyper prenant.
Ouais, c'est ça, c'est que les nouvelles connexions, tu les as dans ce cadre-là.
Et qu'en fait, j'aime aussi beaucoup, beaucoup les moments de solitude.
Que tu dois trouver. Enfin, ouais. Forcément, il faut rééquilibrer quelque part. J'ai encore une tonne de questions, je vais avancer quand même.
Vas-y, et puis t'hésiteras pas à couper. Parce que
On parlait des valeurs de TF. C'est les mêmes que les tiennes. Tu sens un alignement complet. Est-ce qu'elles viennent de toi ou est-ce que TF... Enfin, dans quel sens est-ce que ça s'est fait ?
En fait, on s'est retrouvés vraiment avec Nicolas et Oussama là-dessus. C'est-à-dire qu'on partage cette générosité. Il y a quelque chose qui part de l'ordre de... C'est né d'une frustration. Chacun, on a nos histoires, tu vois, nos parcours de vie qui font que on a été frustrés par le manque d'ouverture, le manque de générosité, et qu'on a envie, on a eu envie de créer un environnement qui soit vraiment propice à l'échange et qui soit dans cette recherche de générosité, quoi, d'aider, d'accompagner les autres. Et c'est marrant parce que là j'ai l'impression d'entendre Mère Teresa. Avec tout le respect que j'ai pour Mère Teresa, évidemment ça n'a rien à voir, quoi. C'est deux choses complètement différentes. On aide des business à grandir et à être le plus indépendant possible, donc à être à faire de l'argent, à être profitable et à croître. Mais c'est possible en fait d'appliquer cette, je crois, cette philosophie-là dans le milieu du business. Et même, c'est même pas que c'est possible, c'est que c'est pas paradoxal du tout. C'est pas tous les business qui rentreront là-dedans. Et je pense pas que la seule manière de s'aider soit par le business, parce que je dis, mais je pense que pour favoriser l'essor du business, on a besoin d'une bonne dose de confiance, d'accompagnement des uns des autres et d'optimisme. Et en fait, donc ça, c'est des valeurs que moi j'en avais besoin dans ma vie perso à moi. C'est quelque chose que j'ai toujours recherché chez les autres. J'ai toujours aimé m'entourer de gens qui ont de l'optimisme, qui rêvent un peu leur vie, quoi. Qui cherchent pas à être dans la norme et qui enchantent le monde, quoi. Voilà, des gens avec du courage. Ça, moi, j'ai toujours recherché des gens avec du courage. Et je pense qu'en fait, c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés avec mes associés.
Et quand tu dis des business qui font sens, parce que ça c'est ma bataille sur ce podcast insensé, c'est comment est-ce que ce que tu fais au quotidien peut faire sens, sachant qu'on a tous besoin de payer le loyer, donc il y a plein de super beaux projets, mais qui ne payent pas forcément les factures. Comment est-ce qu'un business peut faire sens à tes yeux? C'est plus dans les humains qui le portent que sur le sujet du business en lui-même, c'est bien ça?
Mais bien sûr. C'est-à-dire que s'il y a un truc sur lequel on est vachement à cheval à The Family, c'est de jamais être moraliste. Et c'est de jamais juger un projet pour l'objet de son projet. Alors évidemment, on évite tous les sujets qui sont des sujets clairement néfastes. Si tu veux, n'importe quelle boîte, à partir du moment où elle résout un problème, elle rend des gens heureux, elle crée de l'emploi, elle crée de la valeur. Donc on est qui pour pouvoir juger si l'une a plus droit à le label good business qu'une autre, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est plus profond, c'est au sens de, dans ces organisations, les startups sont quand même un modèle dans ce qui est le partage de la valeur avec les employés. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une startup, si tu es un des premiers employés, et même pendant longtemps, hein, tu as des chances de t'enrichir, vraiment, parce que tu as des parts dans la boîte. Et ça, ce n'est pas une pratique que tu as de manière classique dans une boîte traditionnelle.
Oui, tu as une répartition plus juste de la valeur qui est créée au bout du compte. Quel a été ton plus grand apprentissage sur toi ? Tu ne serais jamais dit, moi, je serais ça.
Sur moi ? Je sais pas, qu'est-ce que j'en apprends tous les jours ? Un grand apprentissage sur moi. Je suis plus forte que ce que je pensais.
Propre. On coupe. C'est dans la boîte, Est-ce que tu as une définition pour le succès ?
Trouver sa place. Moi, c'est ça le succès. Tu vois, c'est trouver sa place.
C'est chouette, j'aime bien cette définition. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner à Alice Zaguri, ado ?
T'inquiète pas, c'est pas grave de fumer des joints et de pas savoir quoi faire de sa vie, de traîner et de sortir du système là un petit peu trop. C'est cool, continue. Non, en vrai, honnêtement, j'ai aimé l'adolescente que j'ai été. J'étais une ado un peu turbulente, enfin, à problème, quoi, clairement. Je pense que j'ai fait prendre 10 ans de vie à mes parents en plus, là, tu vois. J'étais dure, j'étais très dure, j'étais out, quoi. J'étais ce que tu veux pas avoir comme adolescente à la maison, quoi. Vraiment, très, très dure.
C'est bien de le reconnaître déjà.
Non, mais je ne me souhaite pas. Mais bref. Je me remercie aujourd'hui. Je m'en suis beaucoup voulu d'avoir été aussi dure, d'avoir été aussi en crise, à causer des problèmes, à jamais être là, tu vois, à être dangereuse. J'étais dangereuse pour moi. Aujourd'hui, je me remercie d'avoir pris ce risque. Parce qu'en fait, je me remercie d'avoir été explorer d'autres mondes et d'autres milieux. D'avoir pas eu peur de tout perdre. Le fait d'être plutôt bonne élève, j'ai perdu tout ça. Je suis passée de première en cinquième à dernière quasiment en quatrième, quoi. Et à être exclue en troisième et puis exclue en seconde, et puis voilà. Cette adolescence turbulente, finalement, elle m'a permis d'aller à la rencontre de gens qui n'étaient pas les gens de mon milieu à moi et qui m'ont enrichi. Et en fait, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est ce qui fait la beauté de ce qu'on réalise à The Family. Je le puise aussi dans ce moment-là. C'est la capacité à parler avec autant des banquiers que des jeunes autodidactes qui n'ont pas le bac. Et qu'il y a peu de structures, je crois, qui réussissent à faire que autant l'un que l'autre se sentent à la maison. Et je pense que c'est hyper important. Et je crois que ça part de cette capacité à aller visiter des mondes qui ne sont pas les mondes dans lesquels on est censé être. Cette curiosité, en fait.
C'est hyper intéressant. Il y a une petite question que j'avais oubliée sur la notion de valeur et de culture. Tu dis que c'est quelque chose qui est assez vivant. Est-ce que c'est des choses qui, d'après toi, évoluent dans le temps ? Est-ce que ça, à chaque nouvelle partie prenante, donc ce banquier ou le jeune qui souhaite lancer son truc, qui n'a pas son bac ou l'étude avec le tampon sur son CV, entre guillemets, est-ce que ces nouvelles parties prenantes font évoluer la culture de ta boîte, font évoluer tes valeurs à toi ?
Les valeurs, elles ne changent pas trop. Elles restent intactes. D'ailleurs, c'est marrant, les valeurs et le manifeste. Le manifeste qu'on a écrit, franchement, au deuxième jour de The Family, on n'avait rien. Il est resté intact. Il y a un mot qui a changé. On est passé de France à Europe, tu vois.
Ok.
Donc ça, c'est plutôt une évidence. Qui a jailli comme ça parce que on était je crois qu'on était à nos places quand on a commencé à imaginer The Family. Et en revanche, ce qui évolue, c'est la culture, elle évolue. La culture, c'est-à-dire les habitudes, tu vois, la façon d'être, le style, des croyances aussi changent. Tu vois, moi j'ai toujours été contre les démodés parce que je trouvais ça débile. Le démodé, c'est le moment où tu présentes un tenté, donc toutes tes startups devant un partenaire d'investisseurs. Parce que je trouvais que ça, en fait, j'en avais fait et je voyais bien le côté caricatural de l'exercice et surtout en fait que ça marchait pas avec l'environnement dans lequel on était. Mais ça, ce qui me déplaisait là-dedans. C'était pas l'idée du pitch. Ça me plaît, le pitch, tu vois, je trouve ça, et j'aime aussi la mise en scène et j'aime aussi le rassemblement. Donc parce que je te dis ça parce que récemment on a fait un exercice à The Family où on appelait ça Collision Day au lieu de démoder. Mais en fait, c'était des startups qui pitchaient des investisseurs.
C'est juste une question de terme.
On l'a tourné différemment. En fait, on a dit, écoutez, c'est pas votre argent nécessairement qu'on veut. Je veux que vous vous mettiez dans une position de « how can I help ?»
Ok.
D'accord ? Bah, il y avait des boîtes qui avaient pas besoin de lever. Et il y avait des boîtes qui avaient besoin de lever. Mais j'avais besoin qu'ils soient dans des bonnes prédispositions et surtout pas qu'ils aient la sensation qu'on veut leur prendre leur fric. Et ça, c'est pas possible, en fait, parce que ça ne marche pas. Si tu veux, dans l'environnement européen, ça ne marche pas pareil. Donc voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que des choses qu'on faisait pas avant, on peut les faire maintenant. Enfin, moi, je me souviens d'une fois où je disais... Oh, on va pas perdre de temps à se faire la bise le matin, c'est insupportable. J'ai été traumatisée par les vies de bureau où il y a 10 personnes qui passent. Bonjour, ça va? Genre tout le monde qui se fait la bise. Alors qu'en fait, il n'y a même pas d'échange, tu vois. Genre, on se voit pour se faire la bise, fin. Quel intérêt.
Poursuivre une règle plus que pour l'instant, quoi.
Exactement. Et donc, j'avais dit, chez The Family, on se fait pas la bise. mais c'est complètement con, ce genre de règle. Parce que c'est pas ce que je voulais dire, dans le fond, c'est saluons-nous, mais et changeons, vraiment. Quoi. Il n'y a pas le principe...
C'est pas l'interdiction de la bise qui compte, voilà, mais plus le moment spécial.
C'est l'idée de la règle pour la règle m'ennuie, quoi.
Ok. J'ai une question insensée. L'œuf ou la poule?
La poule.
Ok. On arrive sur les questions perso. Mm-hmm. C'était une transition parfaite. Mm-hmm. Alice, qu'est-ce que tu veux vraiment ?
Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je veux être heureuse, tu vois, trouver ma voie, contribuer, trouver ma place, être juste. Bon, voilà. C'est simple. Je pense comme tout le monde.
Qu'est-ce qui est sacré à tes yeux ?
Qu'est-ce qui est sacré ? Qu'est-ce qui est sacré ? Ce qui compte le plus pour moi, c'est le bonheur des gens que j'aime. Ouais, ce qui compte le plus pour moi, c'est de voir les autres progresser, être heureux. Ouais, voilà.
Et c'est quoi ta plus grande peur ?
Ma plus grande peur, c'est... comment dire, c'est de stagner, c'est de me voiler la face, de me raconter des histoires, tu vois, pas être à ma place, quoi. Et ça m'arrive souvent, hein, de mentir à moi-même, voilà. Donc c'est une peur que je traverse souvent, ouais, se mentir à soi-même.
J'ai lu sur ton profil LinkedIn que tu saluais les idées folles et impulsives. Est-ce que t'en as une qui te définit bien, ou... que ce soit une des tiennes ou une de celles dont tu as été témoin?
En ce moment, il y a un mec à The Family que j'adore, un jeune, qui est en train, depuis sa chambre, de faire de la recherche sur comment reproduire la soie des araignées. Donc il a des araignées et sa chambre est un mini laboratoire. Et il extrait ce qui fait la soie des araignées. Et son objectif, c'est de recréer cette matière pour une application, par exemple dans le monde automobile, où tu remplacerais l'aluminium par sa matière à lui.
Incroyable.
Et donc il nous envoie des photos d'araignées
de en train de construire. Le...
et je le trouve incroyable. Voilà, ça c'est l'idée folle du moment qui me rend heureuse.
Et les propriétés de cette toile d'araignée, enfin cette matière,
C'est qu'elle est résistante et souple.
Ok.
Tu sais, c'est avec la toile d'araignée qu'on a innové pour les gilets pare-balles. Hein.
Ah, je ne savais pas.
Ouais.
Et génial.
Voilà. Donc ça, c'en est une idée folle.
Alice, on arrive sur la question de la fin.
Ouais.
C'est un set de questions fixes.
Vas-y.
La première, c'est est-ce que tu as un motto?
Une phrase que je me répète?
Ouais. Un truc qui t'aide à te lever le matin ou un truc qui... Un peu ton truc solide, ça peut changer, hein. C'est pas forcément quelque chose d'une vie.
Ça va faire super corporate, mais tu vois, en ce moment, c'est vraiment le der Kircher, quoi. C'est genre, vas-y, sois courageuse, partage et donne, aime, tu vois. Je te dis ça parce que je sors d'une période où j'ai été trop dans l'introspection, à me poser 1000 questions, et qu'en fait, à un moment donné, t'as envie de sortir du nombril et d'arrêter de te poser des questions et juste donne, va vers tes projets et partage, quoi.
Et ça te nourrira.
Ouais, exactement, et tu trouveras les réponses en avançant.
Mmh. Et as-tu une personne inspirante ou un mentor?
Ouais, il y en a plein. Une personne inspirante, plein tout le temps. Mais là, je t'avoue, j'ai vu au Super Bowl J-Lo et Shakira. Et moi, J-Lo, elle m'inspire de ouf. Mais ouais, mais je te le dis sans honte.
Je suis sa plus grande fan. Mon skyblock de l'époque était couverte de J-Lo.
Ouais. Depuis ses débuts, je la kiffe. Hein. La Latina, qui a peur de rien. Je sais pas quel âge elle a, mais la performance qu'elle a faite. Enfin. Et tu sens qu'elle le fait toujours avec le cœur, que c'est une nana hyper authentique. Et puis je suis trop heureuse pour elle, pour sa nouvelle love story, que je suis sur Instagram. Ouais, ça me fait plaisir de voir une femme, si tu veux, d'un certain âge, parce qu'elle a un certain âge quand même, qui continue à rebondir dans sa carrière. On aime ou n'aime pas son son. Sa musique n'est pas ma musique préférée. Hein.
Mmh.
Mais j'aime le fait qu'elle prenne autant de risques, qu'elle joue avec sa féminité, que parfois tu sens que c'est. Il y a eu des moments où dans la carrière de J-Lo, c'était un peu. Voilà, c'est. Mais elle essayait toujours et elle est revenue et ça fait plaisir. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui lâchent pas. Voilà.
Mmh.
C'est-à-dire que t'as beau traverser des moments plus ou moins difficiles, tu lâches pas et tu reviens et tu surprends en revenant et tu te transformes surtout, quoi. Plus t'avances, plus c'est dur, je crois.
Ouais.
Faire une entrée fracassante, c'est facile. Réussir à se transformer et à rester là, voilà. Big up à J-Lo.
Très bien. As-tu un conseil pour quelqu'un qui cherche à aligner ce en quoi il croit avec ce qu'il fait au quotidien?
Ne juge pas. En fait, c'est pas comment dire. Ne juge pas le si t'es un employé, le rôle que t'as ou les responsabilités que t'as. Je crois que ce qui compte, c'est le milieu dans lequel t'es. Si t'es dans un environnement qui te plaît, tu trouveras un moyen de te rendre utile. C'est pas tant en fait ton métier en tant que tel que l'environnement. Va vers des environnements qui t'excitent plus que ta place. Parce qu'en fait, ta place, tu te frayeras ton chemin. Ce qui est plus difficile, c'est de pénétrer un milieu qui t'intéresse. Voilà. Écoute ton cœur, ton envie quand tu rejoins un environnement, quoi. Un environnement, une boîte, un marché. Et si c'est un environnement fait pour toi, tu navigueras dedans, en fait. Donc ne sois pas trop attentif ou regardant sur ma place, mon rôle, mon titre, machin. Ça, on s'en fout, en fait. Mmh. Ça évoluera si c'est le bon environnement pour toi, je pense.
D'accord. Donc plus de s'entourer.
Ou d'aller vers.
S'entourer ou d'aller vers quelque chose qui t'anime plus, qui te prend un peu plus au trip, quoi. Deux vérités et un mensonge. Ne me dis pas lequel est lequel.
Ok. Ah, pardon. C'est à moi de te le dire, je crois.
Oui, c'est toujours à toi que je pose les questions.
Alors, deux vérités et un mensonge. Je sais marcher sur les mains. Je fais la tchatchouka comme personne. Et
tiens une minute en apnée sous l'eau.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la chachouka, tu peux nous dire
c'est
très brièvement.
C'est un plat avec des tomates délicieux, un peu d'œuf, c'est marocain. C'est comme on pourrait comparer ça à une ratatouille du Maghreb, quoi.
J'adore cette définition. À présent, je vais te présenter quelqu'un.
C'est des poivrons en plus, c'est pas des tomates.
Il y a tomates, il y a poivrons. Ouais. Si, il y a des œufs, il y a des œufs au plat par-dessus. Mais ok. Après, c'est là. Déguster. Je te présente Ashanti. Ashanti, c'est la baguette magique du podcast.
Ok.
Je vais te la prêter. Et avec cette baguette magique, tu vas pouvoir faire un vœu que tu vas nous partager sur le podcast. Pour te donner un ordre d'idée, cette Ashanti, c'est une poupée qui vient du Ghana.
Mm-hmm.
Elle est symbole de fertilité là-bas. Et je me la suis un peu appropriée sur le podcast en disant qu'elle était fertilité des bonnes idées. Des idées qui ont du sens. Et je vais te proposer du coup de faire un vœu. Est-ce que tu aimerais changer dans le monde pour qu'il y ait un peu plus de sens ?
Ok, il faut que je le dise du coup, mon vœu ?
Oui.
Ok. Je peux te donner mes pensées là, comme ça, qui me viennent ?
Vas-y.
Hein, sans qu'elles aient forcément de sens. Ashanti, ça m'a fait penser à la chanteuse de R&B, hein, vu qu'on parlait de J-Lo tout à l'heure. Ashanti qui a chanté des super sons.
Ouais.
Et du coup, je pense que un vœu, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Un peu plus de R&B dans la vie des gens. Non, mais en gros, un peu plus de soul, un peu plus de douceur, un peu plus de flow, un peu plus de, tu vois, de tolérance à l'autre, en fait. Et si on dansait tous ensemble, peut-être ça marcherait bien. Parfois, je me dis ça. Quand je vois les gens danser tous ensemble, dans les grands festivals, je me dis, mais en fait, faut qu'on arrête de débattre sur des murs Facebook. Ouais. Faut qu'on aille danser ensemble.
Tout simplement.
Voilà.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ?
Pour la suite de la journée, là, du courage, parce que je vais enchaîner de ouf. Et de la vie, trouver ma voie, et ne pas me mentir, être heureuse et à ma place, quoi.
Merci beaucoup. Une dernière question avant de te quitter, Alice. As-tu une personne qui semble alignée, qui a aligné ses valeurs avec ce qu'il fait au quotidien, que tu aimerais voir passer sur le podcast Insensé ?
Ouais, il y en a plein. Moi, il y a un mec que j'adore en ce moment, qui s'appelle Sofiane Amar, qui a monté une ONG qui s'appelle Shams.
Shams.
Ouais.
Ok.
Il fait des écoles de code dans les camps de réfugiés en Jordanie. Il va en faire un peu partout. Et en fait, je savais pas, tu vois, mais il m'a. Donc c'est aussi un serial entrepreneur qui est business angel. Et il avait investi dans The Family, donc on se connaît comme ça. Et il m'a raconté que la moyenne de durée, combien de temps tu restes en fait dans un camp de réfugiés, c'est 17 ans.
Waouh.
T'imagines ou pas? Donc, et le truc, énorme. C'est que les gens, ils n'ont pas de perspective parce qu'ils ont un statut qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler nulle part. En fait, localement, ça ferait de la concurrence aux gens qui sont dans la ville, aux citoyens, quoi. Et eux, du coup, ils sont bloqués là. Et donc, c'est de savoir que tu ne peux pas travailler, que ça ne sert à rien. Tu vois, donc du coup, t'es bloqué. Donc du coup, il n'y a pas de perspective. Et lui, avec son école, il ramène de la perspective et il trouve, parce que non seulement il apprend, mais surtout il connecte, c'est-à-dire qu'il trouve un moyen de faire en sorte que les gens utilisent leurs compétences pour gagner de l'argent de manière un peu smart, quoi, de manière un peu maligne pour pas détourner la loi, mais tu vois, s'arranger pour que les gens puissent travailler, en fait.
Ouais.
Donc comment tu leverages, comment tu utilises le pouvoir d'Internet pour aider à avoir plus de perspectives. Mais donc, c'est des écoles physiques.
D'accord.
Voilà, il m'a proposé d'y aller, de faire un tour dans une de ces écoles.
Tu vas aller la visiter ?
Ah, c'est chaud. Ouais, mais je vais y aller. J'ai peur. Parce que t'as toujours peur de qu'est-ce que tu vois, de la culpabilité que tu ressens, de cette sensation de ne servir à rien et d'être démuni, tu vois. Mais... Et donc, voilà. Lui, je pense que tu peux l'inviter. C'est un mec charmé.
Avec plaisir. Et tu me diras comment c'était la visite. Okay. Merci beaucoup, Alice.
De rien.
Merci infiniment. C'était un immense plaisir de recevoir Alice chez moi. Une matinée entière, la conversation a été beaucoup plus longue que celle initialement enregistrée. Et j'ai décidé de ne pas couper celle qui a été enregistrée. Cet épisode est donc un peu plus long que les précédents, mais vous, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on aurait dû couper ? Est-ce que ça vous a plu ? Notez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, @insensé_. Vous y retrouverez des citations inspirantes des interviewés, des citations de personnes plus ou moins connues et des images bien perchées. À très vite ! Insensé. Comprenez bien le sens, qu'il soit propre, sale ou figuré. Sans aller dans mon sens, non, ne me brossez pas dans le sens du poil. Faites appel à vos 5 sens, mettez-vous sans dessus dessous, car non, ce n'est pas à sens unique, mais bien à double sens.